l'actualité des idées aujourd'hui, la violence à la barre au lendemain de la mobilisation des surveillants de prison. Comment le besoin, notre besoin de sécurité est-il en train de changer nos perceptions et attentes à l'égard de la justice et de la prison? Notre invité, le magistrat essayiste Denis Salas, président de l'Association pour l'histoire de la justice, auteur de La justice dévoyée et de la volonté de punir, revient dans une tribune publiée le 24 janvier dernier dans Libération sur la violence contenue et celle révélée de notre société. Il appelle aussi à un changement de regard sur les détenus, condition première pour l'amélioration du travail des surveillants et du régime carcéral. Bonjour à vous, Denis Salas.
Bonjour.
Comment comprenez-vous le mouvement qui agite les prisons aujourd'hui, d'une ampleur quand même assez inédite? Est-ce que c'est le signe d'un isolement nouveau, particulier, des prisons, du milieu carcéral dans notre société?
Je pense qu'il faut le prendre largement. Il ne faut pas, je pense, le prendre ou l'analyser trop conjoncturalement sur le cas des prisons elles-mêmes et voir comment les prisons s'inscrivent dans notre société aujourd'hui, si vous voulez. Et aujourd'hui, eh bien, il faut bien le reconnaître, la dimension sécuritaire, la dimension carcérale l'emporte sur toute autre considération dans le champ pénitentiaire. La réinsertion est une fonction que le monde pénitentiaire doit exercer, mais aussi la fonction de sécurité. Et je pense que la fonction de sécurité, c'est celle que nous demandons aujourd'hui prioritairement à nos prisons. 70 000 détenus actuellement, c'est un chiffre que nous avons rarement connu dans l'histoire, sans compter les suivis en milieu ouvert. Et je pense qu'il y a eu deux moments importants dans cette histoire récente. Le premier, c'est très progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, une érosion lente mais irrésistible de la philosophie de la réhabilitation. Vous vous souvenez qu'à l'époque, l'amendement des détenus, la réhabilitation, la réinsertion était un idéal fondamental qui était porté par les lois de l'après-guerre et qui s'est prolongé dans les années 70 et qui s'est aujourd'hui très largement délité sous un double effet. D'une part, l'obsession de la récidive, d'une part, qui joue un rôle très important, et la montée du sentiment victimaire dont on a parlé tout à l'heure. Et puis le deuxième phénomène majeur, c'est, je crois que c'est très simple, c'est le 13 novembre. L'irruption du terrorisme dans des sociétés en paix, l'irruption d'une violence guerrière dont on avait perdu totalement l'habitude, qui nous a confrontés à une chose inédite, c'est-à-dire la peur de la mort violente, subitement. Et cette peur de la mort violente a provoqué un appel à la sécurité considérable dans notre société qui s'est trouvé en quelque sorte transpercé par cette violence guerrière et qui s'est traduite en quelque sorte par une volonté de sécurité accrue. Ce qui explique par la suite les lois sécuritaires, les lois, il y en a eu plusieurs sur l'antiterrorisme, la prolongation de l'état d'urgence, etc., etc., qui montrent à quel point notre société a un besoin de sécurité majeur aujourd'hui. Et du coup, si vous voulez, le rempart contre cette violence qui nous assaille, c'est effectivement le monde carcéral. C'est comme ça que je le situe dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. Et les surveillants sont confrontés. Il y a actuellement environ, deux chiffres simplement, il y a environ 400 détenus repérés comme très radicalisés en détention et en gros 1200 qui sont dans la mouvance terroriste en général. C'est un chiffre considérable, si vous voulez, dont les prisons sont dépositaires aujourd'hui et dont elles doivent rendre des comptes en termes de sécurité. Et du coup, effectivement, les tentatives de trouver des solutions alternatives à la détention ayant pour le moment plutôt échoué, eh bien la détention elle-même est la seule réponse et la confrontation violente avec cette violence carcérale devient le quotidien des surveillants, ce qui explique qu'effectivement aujourd'hui ils n'en peuvent plus.
75, sortie, publication de Surveiller et punir de Michel Foucault chez Gallimard, 74, un an plus tôt, et vous y faites référence dans cette tribune signée dans Libération, cette rébellion de détenus dans les quartiers de haute sécurité et cette rencontre entre le président Valéry Giscard d'Estaing et des détenus, une séquence qui serait impensable pour vous aujourd'hui, une main tendue, un geste politique qui ne serait pas de bonne aloi, qui serait mal perçu si il se reproduisait aujourd'hui?
Nous verrons, n'anticipons pas. En tout cas, on peut comparer deux gestes. Le geste de Giscard d'Estaing en 1974, qui va dans la prison Saint-Paul de Lyon, assez spontanément d'ailleurs, tendre la main à un détenu, ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là, mais qui est un geste qui s'accompagne d'un secrétaire d'État à la condition pénitentiaire. Les mots ont tout leur poids. Est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui un secrétaire d'État à la condition pénitentiaire ? J'en suis pas certain. Donc il y a un souci manifeste de l'autre détenu dans le geste politique de Giscard d'Estaing et dans l'acte politique que suppose la création de ce secrétariat d'État. Et si je compare un autre geste tout récent, celui dont Emmanuel Macron a été l'auteur, puisque très récemment la femme de Yvonne Colonna l'a interpellé à Bastia, mais c'est pas Monsieur Macron qui a tendu la main à cette femme, c'est cette femme qui lui a saisi la main. Ça me semble une nuance extrêmement différente pour protester contre effectivement les conditions d'incarcération. Pas seulement les conditions d'incarcération, mais surtout le fait que le fils de Colonna, qui s'est marié en prison avec cette femme, ne peut pas voir son père depuis un certain nombre de mois. Donc là, il y a là, je crois, deux images fortes. L'une où c'est le politique qui va vers le détenu, et l'autre où c'est une femme de détenu qui va vers le politique. Mais le schéma inverse ne s'est pas produit. Donc je pense qu'il faut les comparer les deux pour comprendre ce qui nous sépare de la période des années 70 avec la période contemporaine.
Justement, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Vous dites politique, la philosophie de la réhabilitation. On croyait donc possible cette réhabilitation des prisonniers et des criminels éventuellement. Mmh. Aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une cassure dans la société. Bon, on ne croit plus peut-être aussi, indépendamment du fait qu'on veuille se protéger, de craindre la mort violente dont vous parlez, on ne croit pas fondamentalement à la possibilité pour, par exemple, les 1200 radicalisés dont vous parliez, de se réhabiliter, de changer véritablement de point de vue.
Il y a un certain pessimisme à cet égard, assez fort. Je ne veux pas donner le sentiment que la réhabilitation est totalement morte. Il faut bien voir que quand on va en prison, je pense que Bettina Reims peut aussi en témoigner, il y a des actions qui existent, plusieurs associations qui interviennent, il y a des actions de réhabilitation de leur image, de leur identité, de leur parcours, les services d'insertion travaillent aussi énormément dans ce sens-là, donc cela existe si vous voulez. Mais je dirais c'est la configuration générale qui a changé et la perception collective que nous avons de ces détenus qui change énormément et l'empathie qu'on pouvait avoir à l'égard de cette réinsertion et de cette possibilité de réinsertion s'est fortement atténuée. Et je crois que l'image que nous véhiculons aujourd'hui, l'image du terrorisme aujourd'hui, est extrêmement porteur d'exclusion. Regardez aujourd'hui, on n'est pas pressé au gouvernement d'accueillir les réfugiés de Syrie ou d'Irak. On préfère qu'ils soient là-bas, loin de nous. Ce que je trouve d'ailleurs très discutable, si vous voulez mon avis, parce que je pense que ces jeunes gens, ces personnes qui ont été dans un parcours de terrorisme ou de djihadisme, ont besoin d'une confrontation avec notre loi. Ont besoin d'une confrontation avec notre loi pour mesurer effectivement le dévoiement de leur idéologie elle-même à laquelle ils se sont donnés et la nécessité de se confronter à cette loi qui me semble être extrêmement importante pour qu'un processus de déradicalisation dans un deuxième temps puisse avoir une chance de succès.
On va y revenir, mais juste encore un mot sur ce parallèle que vous faites entre les années 70 et aujourd'hui. Ce qui est intéressant, il faut quand même se souvenir aussi que 3 ans avant les émeutes qui ont lieu dans les prisons, notamment de Nîmes et de Clairvaux, il y a un groupe d'intellectuels qui se constitue autour d'un manifeste signé en 71 avec Jean-Marie Domenech, Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet. Ce groupe d'information sur les prisons informait aussi l'exécutif de ce qui s'y passait, nous aidait à réfléchir autour du système carcéral et de la figure du détenu. Aujourd'hui, il y a qui pour apporter cette information ? On a l'impression que plus qu'un désintérêt de la part des 10 intellectuels, ou en tout cas de ce monde de la recherche qui peut donner de la voix et être entendu, il y a comme un malaise aussi, peut-être autour de cette figure que vous venez d'évoquer, du détenu radicalisé dont on ne sait pas très bien quoi faire.
C'est-à-dire qu'à l'époque de Michel Foucault et du groupe Information Prison, il y avait une volonté de faire émerger le message politique que ces détenus pouvaient porter dans un contexte, souvenons-nous, de l'époque où cette idéologie politique était très 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 forte. La protestation contre les conditions d'incarcération était extrêmement forte. C'était l'époque des détenus particulièrement surveillés, des quartiers de haute sécurité, de tout ce système répressif interne à la prison qui était particulièrement choquant, avec, on s'en souvient, des protestations sur les toits même des prisons, ce qu'on n'imaginerait plus aujourd'hui, pour alerter l'opinion. Donc le détenu était l'objet d'une attention de l'opinion et d'un relais au sein des intellectuels de cette attention qui supportait en quelque sorte leur cause qui était jugée digne d'une défense. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce soutien de l'opinion et des intellectuels. On a plutôt le sentiment que ces prisonniers font plutôt l'objet d'une volonté d'oubli ou de rejet massif. Et je trouve important que nous posions la question aujourd'hui, parce que notre sentiment dominant, c'est la volonté d'exclure le mal de la cité. Et si vous voulez, la prison est dépositaire de cette volonté d'exclusion. Nous n'avons plus la peine de mort, nous n'avons plus le bagne, comme du temps de la 3e et 4e République, du début de la 5e. Donc la prison est le seul endroit où, effectivement, cette exclusion peut porter.
Mais elle a d'ailleurs toujours eu cette fonction de mise au banc.
Parmi d'autres institutions, longtemps, le bagne a eu cette fonction-là. Le bagne, on reléguait dans les colonies, si vous voulez. C'était, si vous voulez, une forme d'exclusion. Alors, du coup, si vous voulez, la police a un rôle de ce côté-là positif, mais la justice est plus suspecte, parce que la justice, si vous voulez, elle veut réintégrer, elle punit certes, mais elle veut aussi réintégrer le coupable ou le condamné. Et du coup, on voit très bien dans le discours politique aujourd'hui que ces aménagements de peine sont douteux, suspects, parce que effectivement, ils pourraient donner l'impression qu'on ne respecte pas les décisions initiales et qu'on défait dans l'ombre ce qu'on a décidé dans la lumière, dans l'audience publique. Ce qu'a dit effectivement Emmanuel Macron en souhaitant un plan de création de 15 000 places de prison qui est sa priorité aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire attention à cette priorité. Les études qui ont été faites montrent, si vous voulez, que ce qui est efficace en termes de récidive, c'est aussi les aménagements de peine, c'est-à-dire l'adaptation, l'individualisation des peines et les mesures de milieu ouvert. Ce n'est pas du tout la simple incarcération, même de courte durée, d'autant plus que l'incarcération de courte durée, les études le montrent là aussi, est fortement portée à la récidive.
Parce que justement, la ministre ce matin, Nicole Belloubet, affirme qu'elle est favorable à la construction de différents types de prisons en fonction de la dangerosité des détenus. Est-ce que ça vous paraît une idée qui pourrait répondre à
cette nuance me semble importante, parce qu'on peut effectivement introduire dans le monde carcéral différents types de détention. Vous savez, par exemple, actuellement, on a parlé des femmes détenues tout à l'heure. Actuellement, dans beaucoup de centres pénitentiaires, les longues peines, les détenus peuvent sortir de leurs cellules. Les femmes détenues, notamment, peuvent le faire également. Donc, circuler librement dans leur étage et se rencontrer, discuter avec une sorte de convivialité, si vous voulez, entre guillemets, évidemment. Nous sommes toujours en prison. Mais vous avez quand même des aménagements internes à la prison qui permettent, si vous voulez, de rompre l'isolement carcéral et de neutraliser le risque de suicide ou de dépression. Donc ça me semble intéressant comme démarche. Maintenant, il y a aussi la nécessité de penser la sortie de la prison, qui est encore un autre problème. Et là, effectivement, c'est quand même l'enjeu majeur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les sorties dites « sèches », donc sans aménagement, sans soutien, sans suivi, sont forcément portés à la récidive. Un détenu sort avec très peu d'argent en poche, pas de logement, ou surtout si c'est une sortie sèche, quand il n'a pas de suivi pénitentiaire, et on évalue entre 0 et 90 euros la somme qu'un détenu peut avoir en sortant de prison, ce qui est dérisoire.
Et combien sortent dans ces conditions ?
Une grande majorité. Tous ceux qui sortent, ce que j'appelle en sortie sèche, sortent dans ces conditions-là. Ceux qui sortent accompagnés par un service de milieu ouvert peuvent avoir des garanties en termes d'emploi et de réinsertion. Mais tous ne l'ont pas. Et du coup, le danger pour la société elle-même et pour lui, évidemment, en termes de retour en prison, est important. Surtout pour les courtes peines où le temps de la préparation est très, très réduit.
Dans ce contexte de menace terroriste, dans ce contexte aussi de besoin de sécurité accrue qu'on évoquait, qu'est-ce qui se joue dans le huis clos de la prison entre les détenus et les surveillants? Qu'est-ce qui explique aussi aujourd'hui ce trop-plein exprimé par les surveillants de la pénitentiaire des prisons?
Je pense que ce qui se joue, c'est l'image que ces hommes, en majorité, ont dans l'opinion en général et dans l'opinion interne de la prison, dans le monde carcéral lui-même, qui est une image évidemment de dangerosité absolue. Il faut voir les mesures de sécurité qui sont prises quand on les défère au tribunal ou quand on les... Abdeslam en Belgique par exemple, c'est considérable. Donc il y a une précaution extrême qui est prise. Et donc cette image de la dangerosité est visible dans les mesures de sécurité qui sont prises pour neutraliser tout risque de dérapage dans ce type de situation. Donc ça pèse très 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 lourdement dans le champ. Puis la dimension sémantique est importante aussi. On a vu dans le procès de Jawad Ben Daoud récemment, les avocats se battent pour exclure la connotation sémantique du mot terrorisme.
Si vous voulez. Le mot
terrorisme est une étiquette redoutable. Donc les avocats et les juges d'instruction ont réussi à faire de ce receleur non pas un receleur de terroriste, mais un receleur de criminel, ce qui est différent. Ça le rebascule dans le droit commun et ça l'évite de porter l'image du terroriste pour lui-même, pour la détention et pour l'opinion, etc. Donc vous avez là une image qui s'attache aux mots, qui s'attache aussi à la dangerosité structurelle de ces individus, dont on craint à tout moment qu'ils puissent récidiver, et qui explique, si vous voulez, le poids que portent actuellement les surveillants dans ce contexte.
Sur le procès que vous venez d'évoquer de Salah Abdeslam, en ce moment, cette question du silence est aussi au cœur, lui a refusé de s'exprimer, est aussi au cœur du système judiciaire. Comment faire quand un accusé refuse de s'exprimer? Ça va. Alors on entend la parole des victimes aussi, ou des familles des victimes qui auraient besoin, un besoin cathartique, de pouvoir entendre cette parole-là et qui ne l'ont pas. En quoi, selon vous, ça change la logique aussi de notre système et demanderait peut-être une adaptation de notre droit?
Le droit au silence est reconnu récemment dans notre procédure pénale, donc il n'a fait qu'exercer ce droit, j'imagine, sous les conseils de son avocat.
Mais qu'est-ce qu'on fait s'il ne veut pas parler, le droit au silence
Écoutez, il peut se taire, ouais. s'il le souhaite. En général, nous verrons, c'est un premier procès qui ne porte pas sur le 13 novembre. En général, dans mon expérience, je suis beaucoup de procès de terrorisme actuellement, dans mon expérience, ils parlent quand même beaucoup. Donc nous verrons, nous ne sommes pas encore sur ce procès-là, il y en aura d'autres. Qui décide de se taire cette fois-là, dont acte, mais les choses peuvent évoluer. Le travail de l'avocat est très important, pour justement tenter de déminer les tensions qui peuvent exister et de lui démontrer qu'il a peut-être aussi intérêt à parler. Prenez le procès d'Abdelkader Mera, il a beaucoup parlé et c'est un individu extrêmement radicalisé défendu par un avocat célèbre. Donc si vous voulez, il y a quand même là un procès conjoncturel où il a très peu parlé, mais nous verrons par la suite s'il poursuit dans cette stratégie, on ne peut pas prévoir de l'avenir comment se dérouleront les autres procès.
À propos du rôle de l'avocat, je vous propose d'écouter Éric Dupond-Moretti, qui était lui l'avocat d'Abdelkader Mera et qui a rappelé au cours de ce procès, lorsque la question lui a été posée, un certain nombre de vérités selon lui sur le rôle de l'avocat.
Je voudrais que l'on évoque le contexte de ce procès, qui pose la question de la place de la victime dans le procès pénal, du poids de l'opinion publique, de l'image de l'institution judiciaire et de la façon dont le terrorisme nous a anesthésiés. Je voudrais aussi qu'on parle de ça et c'est pour ça que je suis ici. Qu'est-ce que j'attends? La même chose, moi je suis le seul, nous sommes les seuls en défense à nous être délibérément placés sur le terrain probatoire de la preuve. La question c'est, est-ce qu'un type qui incarne le mal absolu par les temps qui courent peut se voir condamné au bénéfice du doute? C'est la seule question. Et bien sûr que si nous avons un deuxième procès, nous redirons les mêmes choses. Et l'association de malfaiteurs en droit et en fait est discutable. Les juges sur ce terrain ne nous ont pas suivis, ils ont motivé leur décision, elle ne nous convainc pas, mais pour autant, ils ont fait au moins l'effort de motiver.
Voilà, Éric Dupond-Moretti, l'avocat du frère de Mohamed Mera, Abdelkader Mera, il lui a été beaucoup reproché d'avoir assumé cette défense, Denis Salas.
Oui, mais je pense qu'on a, les médias en général ont vraiment regardé de très près et presque exclusivement la défense d'Éric Dupond-Moretti, qui est une défense de harcèlement, d'incidents multiples dans l'audience. Je suis pas sûr que ça ait été productif en général. Et on a trop oublié la dignité des témoignages des victimes, qui a été extrêmement forte dans ce procès, qui a élevé le niveau du procès, au-delà des multiples incidents qui ont eu lieu par ailleurs, d'une part, et d'autre part, la décision finale, qui est une décision motivée, publiquement rendue, qui a apporté un apaisement dans le verdict ultime et qui a donné satisfaction à beaucoup, même si le parquet a fait appel. Donc je pense que, regardant aussi ce qui se passe dans l'expression par la parole du traumatisme des victimes, dont seule l'audience peut être le lieu. Je pense que beaucoup ne s'y sont pas trompés et ont livré un récit d'une force, je pense à Laetitia Benziaten notamment, dont beaucoup ont livré un témoignage bouleversant qu'on aurait tort d'oublier derrière la défense bruyante parfois de Éric Dupond-Moretti.
Antoine Mercier.
Oui, je crois qu'il faut peut-être revenir sur ce statut de victime, finalement, qui la place de la victime qui devient centrale, et peut-être s'interroger sur la dimension politique de ce changement qui concerne d'abord la justice, mais qui finalement a aussi une résonance peut-être au niveau politique sociologique. Est-ce que vous diriez que ça accompagne un mouvement d'idées, par exemple ?
Il y a un changement. Tout à l'heure, Olivier Gesbert évoquait un livre que j'ai écrit, La volonté de punir. À l'époque, je l'ai écrit dans la configuration du sarkozysme pénal, et je constatais qu'il y avait effectivement une instrumentalisation par le politique de la figure de la victime. Je pense que nous sommes dans un autre moment aujourd'hui où, on l'a vu dans ces différents procès et par ailleurs, où les victimes elles-mêmes, soit directement, soit par leurs avocats, prennent la parole dans l'espace public et n'hésitent pas à livrer leur récit et à nous le faire partager. Donc il y a beaucoup moins d'instrumentalisation à des fins politiques ou à des fins répressives de leur discours pour justifier des lois encore plus répressives parce que la souffrance des victimes est indéfinie. On a beaucoup plus aujourd'hui une demande authentique des victimes qui se porte sur la question de la vérité qu'on voit avec une manière extrêmement lancinante aujourd'hui et une exigence de réparation qui devient aujourd'hui très forte.
Oui, mais vous avez l'air de valoriser enfin ces témoignages qui sont effectivement très forts, effectivement, oui. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi dans ce jeu de l'émotion et de l'empêchement peut-être de voir une décision de justice qui soit sortie précisément?
Oui, nous sommes d'accord. Mais si vous voulez, ces propos, ces récits de victimes ne se font pas, si vous voulez, dans un cabinet de psychiatre ou dans un lieu extérieur. Ils se font dans un lieu judiciaire où chacun a sa place. Chacun a sa place. Donc la victime parle de sa place, mais dans le moment qui suit, l'avocat aussi à sa place et peut éventuellement contredire tel ou tel point et le juge a la décision. Donc celui de la victime n'est pas dans une expansion de son moi illimité ou de son émotion illimitée. Elle s'exprime par rapport à une position qui lui est assignée par la loi exclusivement sans pouvoir en sortir. Donc si vous voulez, et si elle dit quelque chose qui effectivement est de nature à être contestée, cela le sera.
Donc la justice fonctionne bien selon
dans,
vous
dans ce cadre-là. Maintenant, évidemment, ça peut déborder à tout moment, mais le cadre, s'il est bien posé, peut permettre effectivement de contenir l'émotion et de canaliser effectivement les risques de dérapage qui peuvent se produire.
Maître Dupond-Moretti a aussi évoqué la bataclanisation de la société avec le sentiment pour lui que la justice ne doit pas évoluer ou ne doit pas être transformée sous la pression de l'opinion. Si l'on fait cela, le terrorisme a gagné car il viendrait nous dicter notre façon de vivre, de penser et de juger. La justice ne doit pas être confondue avec la guerre, ni le droit pénal avec le droit de la guerre. Les magistrats ne sont pas des soldats, a-t-il dit dans Philosophie Magazine, Denis Salas. Est-ce qu'il faut quand même, puisque nous, on est dans un moment particulier, confronté à une menace nouvelle, faire évoluer notre dispositif pénal?
Oui, mais le problème, c'est que nous sommes d'accord, l'état de droit n'est pas l'état de guerre, mais le problème, c'est que la guerre est rentrée dans le droit, tout simplement. L'état d'urgence, c'est une situation de justice d'exception qui est rentrée dans le droit, sortait dans la rue, les opérations sentinelles, l'armée est dans nos villes, le plan Vigipirate s'exerce, Emmanuel Macron crée une task force à l'Elysée, il y a une militarisation de l'action antiterroriste, donc tout cela, quand même, doit être mesuré. Je pense simplement que il y a, du point de vue policier et militaire, un fort durcissement de nos réponses. Mais c'est là où l'état de droit, je pense, a une place considérable. Et nous ne nous y trompons pas. Le procès lui-même est un lieu d'expression des points de vue différents et contradictoires sur le terrorisme. Ce n'est pas une action militaire, répressive, univoque, ou destructrice, faire la guerre au terrorisme ou les détruire, comme disait François Hollande. Non, c'est une action judiciaire et légale qui est fondée sur d'autres valeurs que simplement les valeurs de la réponse militaire ou guerrière. Donc le procès rétablit l'état de droit, in fine. Vous avez vu, par exemple, dans le procès de Abdelkader Merah, que les services secrets, la DGSI notamment, a dû livrer, en quelque sorte, ses propres hésitations publiquement devant l'opinion dans la traque de Merah et les conditions de son arrestation. C'est quand même un moment de démocratie très fort où l'État pénal, l'État secret, le renseignement, etc., doit s'expliquer devant l'opinion et dire effectivement ce qui n'a pas fonctionné d'une manière transparente. On n'avait pas vu ça jusque-là, à ce point. Là, on l'a vu et les services secrets se sont expliqués et ont été contre-interrogés par les avocats des victimes et par les avocats de la défense, sans aucune concession particulière. Donc il y a eu là un moment où on a dû rendre compte d'une action policière qui me semble un moment de démocratie qu'il ne faut pas oublier dans ce type de procès.
Vous voulez dire que la justice aujourd'hui résiste à ce que vous appelez vous-même le populisme pénal ?
Elle résiste en partie, c'est-à-dire qu'il y a du point de vue policier, avec notamment l'état d'urgence qui maintenant est intégré dans notre droit, des moyens considérables qui sont faits pour durcir la répression et l'accroître d'une manière univoque. Par contre, effectivement, dans le champ ultérieur de l'audience pénale, du procès, même si ce sont des procès avec des professionnels, il n'y a pas de jury d'assises dans les procès pénaux pour terrorisme, eh bien, il y a là un exercice démocratique extrêmement, extrêmement convaincant, je crois, qui me semble être aujourd'hui administré par notre institution.
J'aimerais quand même qu'on fasse ensemble un petit coup de projecteur sur cette question des revenants. C'est ainsi que les appelle le journaliste David Thompson, qui a enquêté de longues années sur le sujet de la radicalisation et publié l'an passé cet ouvrage « Les revenants » qui revient sur la figure de ces djihadistes partis mener le djihad en Irak ou en Syrie et qui seraient de retour en France. Les revenants qui reviennent selon lui déçus, mais pour la plupart fidèles au courant djihadiste de l'islam sunnite. Dans le Figaro récemment, il a rappelé deux, trois choses. Dans le huis clos carcéral, pour lui, les djihadistes ont tendance à s'enraciner dans leur idéologie et dans leur intention terroriste, que ce soit dans la prison ou en dehors, dit-il. Et il rappelle aussi que plus de 50% des détenus terroristes déjà condamnés sont censés sortir de prison d'ici à 2020. Toujours dans cet entretien donné au Figaro, il estime donc que la menace est peut-être réduite à court terme, mais pas à long terme. Sa conclusion, elle est quand même assez glaciale. Il estime que la démocratie ne lutte pas à armes égales avec le djihadisme, Denis Salas.
Je pense que déradicalisation, le terme ne plaît pas trop. On parle de désembrigadement. Enfin, il y a d'autres termes qui ont été utilisés, notamment par le rapport de Mme Benbassa du Sénat. Donc, il faudrait peut-être trouver un terme plus adéquat. On peut parler aussi de désaffiliation, parce qu'ils sont affiliés à une idéologie, à une image religieuse. Moi, je pense que le diagnostic
De David Thompson
me semble extrêmement, extrêmement, extrêmement juste, mais je le contesterai sur un point. Le travail qui est fait par la justice aujourd'hui, notamment parquet, siège, instruction, enfin la chaîne générale, est un travail qu'il ne faut pas négliger dans cet effort de désaffiliation. C'est-à-dire que c'est un travail de contester deux choses. D'une part, les loyautés à l'égard du groupe d'affiliation djihadistes, principalement. Et deuxième chose, contester la loi. La loi, vous savez, les actes djihadistes ne sont pas des actes de violence pulsionnelle. Pas l'oublier, ça. Ce sont toujours des actes mandatés par une fatwa, par une instance religieuse qui a décidé effectivement que le sang des mécréants est illicite. D'où le meurtre qui s'ensuit, parfois le meurtre de masse. Donc il faut contester non seulement l'acte, mais les raisons, les justifications idéologiques de l'acte, si vous voulez. Et le rôle de la justice, c'est d'aller chercher cette justification et de la confronter à nos notre loi, nos justifications légales qui n'acceptent pas, si vous voulez, ce type de raison de tuer. Beaucoup de procès mentionnent notamment le fait que une question est posée par des avocats, par exemple, est-ce que vous contestez la loi républicaine ? Est-ce que vous acceptez les lois républicaines ? Et la réponse est importante. Mais la réponse est importante, mais elle conditionne ensuite le travail de déradicalisation qui peut être fait par les instances spécialisées. Donc il y a ce double travail-là, qui à mon avis est le point aveugle de l'argumentation de David Thompson, le travail sur la déloyauté au sein du groupe, où on va désolidariser l'individu du groupe d'appartenance auquel il se réfère jusqu'à présent, et auquel il est rituellement lié par l'histoire commune qu'ils ont tissée ensemble, et de notre côté, la confrontation à la loi républicaine qui va effectivement repousser par sa force même, par sa démonstration même, par aussi la décision
mais
juste.
Est-ce que c'est dans les prisons que ce travail peut être fait aujourd'hui ?
Il se fait, à mon avis, n'oublions pas qu'il se fait déjà dans l'instruction et dans le procès, dans le travail avec l'avocat aussi. Aussi, qui est un homme de loi, qui va aussi, on le voit très souvent dans les dialogues qui se passent entre les détenus et les accusés et les avocats, et qui doit se prolonger, qui devrait se prolonger, disons-le, qui devrait se prolonger dans le monde carcéral.
Les djihadistes partis de France, arrêtés entre l'Irak et la Syrie, est-ce qu'il reste des ressortissants français ? Est-ce qu'on a le devoir moral ou juridique de les rapatrier ? Est-ce que vous estimez qu'ils sont du ressort de la justice française ?
Moi, ça me semble, ce sont des Français, donc ça me semble important. Pourtant, nous puissions effectivement les juger, les confronter à leurs actes, les confronter à leurs récits, que leurs familles aussi ont le droit d'y participer, d'être invitées à ce type d'audience. Il y aura une phase d'incarcération, une phase de punition qui me semble effectivement justifiée par rapport aux faits qui ont été commis. Nous sommes dans l'association de malfaiteurs et dans les actes terroristes et du coup tout le processus doit être déployé devant eux. Je pense qu'il ne faut pas les considérer comme les ennemis du genre humain et les exclure de la communauté. Ils doivent revenir chez nous, être jugés chez nous, être condamnés éventuellement chez nous et ensuite bénéficier des programmes de réinsertion adéquats.
À vous entendre, il y a encore une grande force de ce côté de chez nous, comme vous dites, éventuellement résister
à cela. Je ne la postule pas, je l'observe dans le terrain qui est le mien.
Bon, merci beaucoup Denis Salas, pardon de vous couper un peu la parole sur la fin, on a mis tout le monde en retard, ou je vous ai mis en retard Antoine, merci. Dans la première partie de l'émission, on va essayer de respecter la pendule et les horaires pour cette fin de grande table. Un grand merci à toute l'équipe, à la programmation préparation Claire Maillot et Coppelia Ménardi, Chloé Leblon, Clémence Marie et Henri Leblanc. Merci beaucoup à Bertie Bourdon et Maxime Morin. La réalisation aujourd'hui, Perret Legras avec Élise Le. Très bon après-midi à tous, très bon week-end et je vous dis rendez-vous lundi.